France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, certaines espèces animales menacent-elles la biodiversité ? Ça bouge pas mal et même de plus en plus dans le monde animal. Certaines espèces peuvent se déplacer loin des zones où elles ont évolué depuis des millions d'années, le plus souvent avec le concours des humains voyageurs que nous sommes. Elles parcourent désormais des centaines, voire des milliers de kilomètres, à bord de bateaux, de trains, de voitures, d'avions, le plus souvent à l'insu de notre plein gré. Certaines de ces espèces, dites exotiques, parviennent à survivre et à se reproduire dans leur lieu d'arrivée. Elles se mélangent ainsi à grande échelle avec les espèces déjà présentes. Pour décrire ce phénomène, d'aucuns parleraient d'une McDonaldisation progressive de la nature, boostée par la mondialisation. Certaines de ces espèces animales, telles le célèbre moustique-tigre, prolifèrent davantage qu'elles ne le font dans leur habitat d'origine, comme si elles avaient, pour ainsi dire, déjanté. Comment expliquer ce phénomène ? Et d'où vient que certaines de ces espèces provoquent beaucoup plus de dégâts que d'autres en malmenant la biodiversité des lieux où elles s'installent ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Cléo Berstel-Meyer. Bonjour.
Bonjour.
J'ai bien prononcé Berstel-Meyer.
Très bien.
Vous êtes biologiste, professeur au département d'écologie et d'évolution de l'Université de Lausanne et vous venez de publier aux éditions Favre un livre passionnant intitulé « Comment les animaux exotiques envahissent le monde » avec pour sous-titre « Intelligence et opportunisme ». Alors vous racontez dans ce livre qu'à l'âge de 18 ans, vous avez fait une bêtise. Une seule, ce qui est peu
oui,
pour cet âge.
Oui, seulement celle-là. En tout cas, c'est la seule que je raconte.
Vous avez fait une bêtise en croyant bien faire.
Oui, exactement. Donc, j'ai été rentrée d'un voyage en Roumanie avec ma grand-mère. Et puis, en arrivant chez moi, j'ai eu la surprise de découvrir un très grand lézard dans mon sac à dos. Donc, un très grand lézard vert. Et je me suis demandé ce que j'allais pouvoir en faire. Et puis, mon souci principal était le bien-être de cet animal. Et donc, avec mon père, on a décidé de le relâcher dans la vallée du Rhin où habitent mes parents. Et puis, on a bien cherché un bon endroit qui nous paraissait favorable, avec un bon climat, doux, tout ça, pour qu'il puisse survivre à cet endroit. Et voilà, et puis je n'ai pas réfléchi plus que ça à la question. C'est seulement quelques années après, quand je suis devenue biologiste, que j'ai suivi des cours à l'université, que j'ai appris que c'est un très, très, très grand problème des animaux qu'on relâche en dehors de leur aire de distribution naturelle et qui peuvent vraiment poser des très très grands dégâts pour l'environnement, causer des graves problèmes. Et s'ils arrivent à survivre et se multiplier.
Mais si vous aviez su cela quand vous aviez 18 ans, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de le relâcher dans la nature, dans un endroit que vous jugiez favorable?
Oui, je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. Après, il y a différentes solutions. Donc, soit on peut le garder soi-même à la maison, comme animal de compagnie. Et si on n'a pas envie de faire ça, il y a des associations qui reprennent des animaux. En tout cas, il faut le garder en captivité, ça, c'est sûr.
Mais vous savez, s'il s'est reproduit, s'il y a des cohortes de lézards verts qui se sont... reproduite
a priori,
après cette bêtise que vous avez faite.
Oui, a priori, je pense pas, parce que je revisite le lieu quand même régulièrement quand je visite mes parents et on n'a pas entendu parler de grands lézards verts qui se seraient multipliés dans la région. Donc j'espère qu'il s'est rien passé. Peut-être c'était pas une femelle aussi, peut-être c'était un mâle.
Mais c'est mieux d'être une femelle.
Alors si c'est une femelle, elle aurait pu être déjà enceinte en fait, avec, parce que les lézards, il y en a qui sont vivipares, donc ils peuvent produire des jeunes tout seul. Donc parfois, il suffit d'une seule femelle pour déclencher une invasion.
J'ai parlé dans mon introduction du moustique-tigre, mais vous parlez, vous, du frelon asiatique.
Ça,
alors lui, il a proliféré. Mais comment est-ce qu'il est arrivé chez nous, si j'ose dire ?
Oui, alors le frelon, ça, c'est typiquement un exemple dramatique d'une invasion qui est partie d'une seule femelle, en fait, d'une seule reine, qui est arrivée sans doute avec l'importation de poterie depuis la Chine, qui serait arrivée dans le sud de la France vers l'année 2004. Et à partir d'une seule reine, donc on est sûr que c'est une seule reine, parce qu'il y a des scientifiques qui ont fait des études génétiques sur les populations qu'on a aujourd'hui en France. En 20 ans, cette espèce a envahi presque tous les départements de France. Et puis, elle est même en train de se propager au-delà de la France, en Suisse, en Allemagne. Et puis, c'est une catastrophe pour les apiculteurs, parce que le frelon asiatique, c'est un très grand prédateur, en fait, et qui est extrêmement efficace à attraper des abeilles et d'autres pollinisateurs.
Alors, vous donnez des chiffres à ce propos, Cléo Bastelmeier. Vous dites, voilà, on estime qu'à partir de 100 à 1000 individus, on est assez sûr qu'un groupe pourra s'établir durablement si les conditions sont favorables. Globalement, on pense que parmi toutes les espèces qui voyagent grâce à l'humain, seuls 10% arrivent à s'établir ailleurs. Et parmi ces espèces, seuls 10% se propagent ensuite plus loin dans l'aire introduite. Donc c'est quand même un phénomène assez marginal.
Non, il faut se rendre compte qu'il y a des milliers d'espèces qui voyagent tous les jours. Donc il faut imaginer le transport, les mobilités humaines, les trains, les avions, les bateaux, toutes les marchandises qui sont transportées, qui circulent tous les jours. Et à bord de tous ces moyens de transport, il y a des milliers d'espèces d'insectes de petite taille, mais aussi des animaux de plus grande taille qui sont parfois relâchés délibérément.
On va donner quelques autres noms d'animaux qui ont produit des effets plutôt dévastateurs, notamment le tamia de Sibérie, qu'on appelle aussi l'écureuil de Corée. Comment est-ce qu'il peut avoir une appellation qui renvoie d'un côté à la Corée, de l'autre à la Sibérie?
Il y a une aire de distribution assez large, en fait, en Asie.
Donc on choisit.
Oui, <c'est... rire>
Alors vous dites que cet écureuil, qui a l'air finalement assez sympathique, vous montrez une photo, en fait il mord et il pue. Et si j'en trouve un, par hasard, qu'est-ce que je dois faire?
Ouais, rien. Moi, je ferais rien si je trouve un individu. En fait, le problème, ce sera pas qu'il y a un individu. Le problème, c'est qu'il est, il a été importé par le commerce des animaux de compagnie, parce qu'il est vraiment très très mignon. Il a des grands yeux. Il est adorable. Il sort droit d'un dessin animé, en fait. Oui. Et le problème, c'est que c'est pas animal. C'est un animal. C'est que beaucoup de gens l'ont acheté. Après, il est pas très bon comme animal de compagnie. Et puis l'ont relâché dans des parcs et dans des forêts proches des villes.
Parce qu'ils sont mauvais, en fait.
Ils sont mauvais et morts aussi. Donc c'est pas très agréable de l'avoir à la maison. Et maintenant, on a des populations de très grande taille autour de Paris, Genève, Milan, Bruxelles, dans les forêts.
Vous êtes biologiste, je l'ai dit, mais plus précisément, vous êtes myrmécologue. Myrmécologue, ça veut dire que vous êtes spécialiste des fourmis. Quand vous en parlez ensemble, vous les aimez.
Oui, moi j'adore
pourtant,
les fourmis.
Mais oui, et pourtant, vous dites qu'il y a au moins 300 espèces de fourmis invasives qui comptent parmi les pires.
C'est exact, oui. Donc
y a... Et vous les aimez quand même?
Alors, bon, peut-être celle-là un peu moins que les autres. Mais... Donc, on connaît à peu près 15 000 espèces de fourmis dans le monde. Et moi, je les aime beaucoup à cause de leur socialité. Je trouve c'est hyper intéressant comment fonctionne la vie en société chez les fourmis. Mais c'est vrai que la socialité aussi est une caractéristique qui favorise l'invasion. Et donc, parmi tous les insectes, on pense qu'il y a à peu près 2% qui forment des sociétés, donc c'est des termites, des fourmis, des guêpes, des abeilles. Par contre, parmi les pires espèces invasives d'insectes, on compte à peu près 50% qui sont sociaux, donc qui vivent en société.
Il y a là que vous n'aimez pas, hein, parmi ces espèces. Vous adorez les fourmis, on l'a dit, mais les lombriques exotiques, vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous leur reprochez?
Je ne reproche rien du tout.
Si, page 12, page 12, vous dites des choses horribles sur ces bestioles. Vous dites qu'elles transforment le sol en un agglomérat dur et font complètement disparaître la litière, c'est-à-dire les feuilles mortes et les débris végétaux en décomposition, qui recouvrent le sol et constituent une zone fertile et importante pour la germination de nombreuses graines. Par conséquent, de nombreuses plantes n'arrivent plus à pousser sur ces sols, notamment l'emblématique érable à sucre, qui meurt facilement si ses vers grouillent parmi ses racines.
Tout à fait, oui, c'est effrayant comme scénario. Mais oui, donc ça, c'est pour donner l'exemple d'espèces qu'on remarquerait moins vite, que l'humain a tendance à moins faire attention à les lombriques qui sont dans la terre et qui pourtant peuvent complètement chambouler un écosystème. Contrairement à des espèces comme le frelon asiatique dont on vient de parler, qui est beaucoup plus visible, que les humains vont remarquer plus facilement.
Alors vous dites qu'il y a cinq causes qui menacent la biodiversité. La perte des habitats, le changement climatique, la pollution et la surexploitation et l'invasion d'espèces exotiques. Et vous dites que si on essaie de les hiérarchiser, bien l'invasion d'espèces exotiques occupe la deuxième place dans le palmarès.
Pour le moment,
derrière
oui.
La perte des habitats.
Pour le moment, c'est vrai. Donc, les études scientifiques ont montré que les invasions sont pour le moment la deuxième cause des extinctions d'animaux. Et c'est souvent le cas, surtout dans des écosystèmes, dans les îles, par exemple, où les espèces sont très naïfs par rapport à ces nouvelles espèces exotiques qui sont introduites. Par exemple, on peut citer le cas de nombreux oiseaux qui sont endémiques dans les îles et qui ont évolué en absence de prédateurs. Et donc, ils construisent leur nid par terre parce que justement, il n'y a pas d'animaux qui menacent leur nid. Et quand il y a des rats qui ont été introduits dans ces îles, qui sont arrivés avec les Européens pendant depuis l'âge des découvertes. Mais ces rats, en fait, se servent assez librement dans ces nids, ils mangent les œufs, parfois aussi les oisillons. Et ça a causé un déclin dramatique d'oiseaux dans ces écosystèmes. C'est pour ça qu'en fait, pour le moment, les invasions sont la deuxième cause d'extinction. Après, le changement climatique commence à monter en puissance et donc on craint que dans le futur il fera aussi pas mal de victimes.
Donc si je dis que quand une espèce se déplace dans l'espace, elle devrait augmenter la biodiversité à l'endroit où elle arrive, ce raisonnement-là est complètement faux.
Oui, alors c'est vrai que ça fera toujours une espèce de plus à l'instant où il arrive. Maintenant, si cette espèce cause le déclin ou la disparition d'autres espèces, au final, on est quand même perdant parce qu'on peut se retrouver avec un niveau de biodiversité beaucoup plus faible.
Il y a une bestiole dont on parle beaucoup, le moustique-tigre. À quoi est-ce qu'on le reconnaît ? En quoi il se distingue des moustiques habituels, si j'ose dire?
Alors, il est un petit peu plus petit. Il est un petit peu tigré, justement, comme le nom l'indique. Il ne fait pas le bruit caractéristique des moustiques classiques.
Et, on n'entend pas.
On n'entend pas. Et surtout, il est actif toute la journée. Donc, les moustiques qu'on a normalement
ici. Soir.
Ouais, c'est plutôt de crépuscule. Lui, il est actif toute la journée.
Et il pique et.
Il pique et puis
ça fait mal.
Ouais, c'est pas très agréable, mais surtout il est vecteur de nombreuses maladies, donc la dengue, la chikungunya, et c'est ça la plus grande crainte, c'est que des maladies tropicales qu'on n'a pas en France pourront être transmises par ce moustique qui est maintenant très très largement répandu en France. Donc s'il y a des voyageurs qui reviennent qui sont malades, ce moustique il peut transmettre localement ces maladies. Et on a déjà vu des cas justement de chikungunya et de la dengue qui sont transmis localement. Et il y a quelques années en arrière encore, on disait non, ça ne va pas être un problème, le moustique ne pourra pas envahir toute la France, de toute façon il fait trop froid. Et puis bien si, même s'il est là, ce ne sera pas un problème parce qu'on a des super systèmes de santé. Mais là, en fait, le ministère de la Santé, ils ont changé un petit peu d'avis. Donc, depuis l'année dernière, ils estiment qu'il y a quand même une probabilité assez forte, donc qu'ils estiment de 6 à 7 sur une échelle de 9, que dans les prochaines années, il y aurait des épidémies en France qui seraient dues à l'arrivée du moustique-tigre.
Cléo Bertelsmeyer, il y a monsieur dont j'ai appris l'existence en lisant votre livre, qui est une espèce de clone de Darwin, mais moins connu. Il a beaucoup voyagé, il s'appelait Alfred Russel Wallace. Alors, qui était-il et qu'a-t-il découvert?
Alors, il a aussi découvert la théorie de l'évolution, un petit peu en même temps que Darwin, mais on en parle moins parce que finalement c'est Darwin qui a qui a été le premier à publier ses idées. Mais Wallace, alors, il est très connu en biologie pour son apport en biogéographie. Donc, biogéographie, c'est l'étude des distributions des espèces dans l'espace. Et il a fait des voyages, tout comme Darwin aussi, sur un bateau autour de la Terre. Et puis, il a remarqué quelque chose d'incroyable quand il était en Asie du Sud-Est. Il y a un endroit entre Bali et Lombok qui séparait seulement de 30 km. Et à cet endroit, d'un coup, on trouve un cortège complètement différent d'animaux.
Comme j'avais une frontière invisible.
On ne peut pas l'expliquer, ce phénomène.
C'est-à-dire que d'un côté, il y a des animaux du côté, disons, asiatique, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y a du côté australien.
Exactement, oui.
Et alors, comment on explique que cette ligne invisible soit infranchissable pour ces espèces?
Donc, on peut comprendre cette histoire seulement si on s'intéresse à l'histoire de la Terre. Donc, il y a 250 millions encore, la Terre ne ressemblait pas du tout à ça. Il y avait un supercontinent, le Gondwana, qui s'est ensuite séparé en différentes parties. Et donc, les animaux qui sont aujourd'hui en Australie étaient séparés pendant très, très, très longtemps des animaux qui sont aujourd'hui en Asie. Et en fait, cette proximité est relativement récente. C'est le mouvement des plaques qui les a rapprochés seulement relativement récemment par rapport à l'histoire de la Terre.
Et donc c'est ça qui explique ce que vous appelez des lignes de Wallace.
Oui, cette ligne invisible à cet endroit, on l'appelle la ligne de Wallace. Après, plus tard, on a découvert qu'il existe d'autres lignes comme ça. Donc, ce sont ce qu'on appelle les biorégions, qui est un peu partout dans le monde. Ces frontières, il y en a une aussi entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. On a une vers le Sahara, qu'on appelle ces frontières géographiques, biogéographiques, qui séparent vraiment la composition d'espèces.
Mais vous, les biologistes, est-ce que vous êtes capable de dire combien il existe d'espèces exotiques? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'elles ont été déplacées par des humains?
Alors, deux questions. La deuxième, on ne peut pas être sûr pour pas mal d'espèces. Donc, souvent, on pense que c'est une espèce exotique parce que on l'a vu arriver, en fait. Donc ça c'est le cas pour les espèces qui sont arrivées relativement récemment. On sait qu'avant ils y étaient pas, maintenant ils y sont. Et puis avec des études génétiques, on peut comparer en fait leur génome au génome d'autres populations de cette même espèce. Et puis on peut retrouver leur population ancestrale, donc l'air natif. Mais pour certaines espèces qui ont voyagé il y a très longtemps, donc le mouvement de ces animaux a commencé depuis la nuit des temps, depuis que l'humain s'est déplacé aussi, donc au néolithique notamment, il y a eu des expansions aussi avec l'agriculture. Et bien, l'humain a déjà fait voyager beaucoup d'espèces depuis longtemps. Donc pour ces espèces-là, souvent on ne sait pas si elles sont exotiques ou pas en fait. Mais pour les espèces, on est assez sûr qu'il s'agit d'espèces exotiques qui sont arrivées relativement récemment dans le monde. Toutes les espèces ensemble, donc c'est-à-dire plantes, champignons, insectes, mammifères, oiseaux, etc. On compte environ 39 000.
35 000 sur un total de...
Ouais, total, difficile à savoir, mais les estimations sont à plusieurs millions d'espèces. Ouais.
Il y a un cas dramatique que vous rappelez qui est assez bien connu, c'est celui du lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique, qui a été en quelque sorte victime pour ce qui est de sa biodiversité, de l'arrivée de la perche du Nil. Comment ça s'est passé?
Ah, c'est un très gros poisson, la perche du Nil, et elle a été introduite pour la pêche.
C'était quoi le but?
Pour la pêcher. Ouais. Donc pour qu'elle s'installe, se multiplie, commence à avoir des grandes populations, et puis ensuite qu'on puisse la repêcher pour s'en nourrir. Ce qui était très réussi de ce point de vue-là, parce qu'elle s'est bien
répandue. Pendant un certain temps.
Pendant un certain temps. Sauf que c'est un prédateur généraliste qui se nourrit de tout ce qui passe pas loin de sa bouche, disons. Et du coup, ce poisson, il se nourrit aussi de petits poissons endémiques qu'on appelle les cyclides. cnidés. Donc, c'est des petits poissons très colorés que, alors, les biologistes ils ont tous vu ça en cours. En fait, sont très jolis, ces poissons. Et puis, une diversification incroyable qui est assez récente. Et bien, ce prédateur est responsable de l'extinction d'environ 150 espèces dans ce lac.
Il a été introduit dans ce lac en 1954, je crois.
Oui.
Et donc, cette extinction s'est faite en quelques décennies.
Oui. C'est ça, oui, c'est très rapide.
Alors vous l'avez raconté à nouveau, vous avez commis cette petite bêtise quand vous aviez 18 ans, mais il y a un monsieur, un colon anglais, qui s'appelait Thomas Austin, lui, il n'a pas fait une petite bêtise, il a fait une grosse bourde en 1859. Une histoire de lapin.
Oui. Alors lui, il a cherché à introduire le lapin, donc comme la perche du Nil en fait, pour la chasse. Donc il voulait l'introduire en Australie. Et alors les premières tentatives n'étaient pas très fructueuses parce qu'on a pris des lapins un peu comme des animaux de compagnie, qui sont jolis, mignons, avec des différentes couleurs. Mais lui, il a eu la bonne idée de revenir en Angleterre et vraiment prendre des lapins robustes, plutôt les lièvre en fait, lapin européen, qui est assez endurant, il est robuste, il résiste aussi à des changements de température, voilà. Et il a importé des animaux d'Angleterre en Australie et qui ont proliféré de manière absolument fantastique, incroyable. Et en quelques années, 6 ans après déjà, à partir d'une vingtaine d'animaux, il y avait plus de 20 000
C'est une croissance exponentielle.
Exactement.
Mais est-ce que ce monsieur était au courant que les lapins ont tendance à se reproduire comme des lapins?
Peut-être il n'était pas au courant ou il pensait pas que ça allait faire une explosion démographique qui n'était pas freinée et qui était du coup l'invasion la plus rapide au monde qui a progressé à un rythme fulgurant et maintenant les lapins sont partout sur le continent australien.
Dans votre livre, vous expliquez que la France est le pays le plus impacté par les espèces invasives. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est une sorte d'exception culturelle? Est-ce que c'est sa topographie, sa géographie qui l'explique?
Oui, alors en Europe, il fait partie, avec l'Italie, c'est des deux pays qui sont très impactés parce qu'il y a beaucoup de liens commerciaux d'importation depuis le monde entier. Et il y a une étude scientifique qui a montré que souvent, les espèces arrivent d'abord en France avant de se répandre plus loin en Europe.
Parce qu'il y a un commerce maritime plus important?
Je pense que c'est sans doute un petit peu en lien avec des liens très forts avec aussi les anciens colonies de France. Enfin, parce que pas mal d'espèces sont arrivées il y a longtemps aussi. Et on a fait des études sur, comme je l'explique dans le livre, le rôle qu'a joué les différents empires coloniaux dans la dispersion des espèces, donc notamment les plantes. On voit encore aujourd'hui l'empreinte de ces liens d'échanges de cette époque en fait. Donc les plantes qui appartiennent, qui sont installées dans des pays qui appartenaient à l'époque à l'empire français, se ressemblent beaucoup plus que des plantes qui ont été introduites dans l'empire britannique par exemple.
Cléo Berthelsmeyer, dans votre livre, il y a une photo d'une grenouille taureau, qu'on appelle aussi le wawaron. Et quand je vois la photo, je ne peux pas résister à l'envie de vous demander de nous en parler. Elle pèse 1 kilo, c'est un animal qui m'a l'air tout à fait effrayant, non?
Oui, il est assez c'est moche, assez gros.
Et puis, 1 kilo pour une grenouille?
Oui, mais effectivement. Et puis,
elle a été introduite volontairement dans plusieurs pays du monde, oui, pour sa viande.
Pour sa viande, elle est mangée, mais aussi il y a des gens qui l'élèvent comme animal de compagnie. Il y a des concours de sauts de grenouilles.
On fait sauter les grenouilles. Mm-hmm. Et celle qui saute le plus loin a une médaille.
Ouais, je sais pas. Oui, peut-être.
Cela dit, vous vous moquez, mais j'ai lu que vous aviez vous-même organisé à Lausanne, mm-hmm, dans votre université, des combats de fourmis. C'était quoi le but?
C'est juste. Oui, alors c'est parti du constat qu'il y a différentes espèces de fourmis qui sont ultra invasives, ultra dominantes, et puis qui peuvent envahir les mêmes endroits. Et j'ai voulu savoir lesquelles seraient les super dominantes, en fait, qui gagneraient en cas d'affrontement entre différentes espèces. Et je suis un petit peu partie aussi de l'hypothèse que c'est forcément les plus agressifs qui gagnent, que c'est une caractéristique d'espèces invasives.
Pour s'implanter dans un nouveau territoire, il faut être agressif.
Il faut être agressif, il faut être dominant. C'était ça un petit peu une idée qui était assez répandue dans la littérature. Et donc, j'ai organisé des sortes de petits combats, affrontements entre fourmis dans les boîtes de pétri. Il y a des collègues qui pariaient là-dessus, sur l'issue de ces...
Mais quand vous mettez deux fourmis d'espèces différentes l'une à côté de l'autre, spontanément, elles vont se battre?
Oui, souvent, oui. Donc, elles vont s'approcher et puis elles vont se toucher les antennes. Donc, souvent, les fourmis, c'est par l'odorat qu'elles reconnaissent qui est un ami ou qui l'est pas, qui fait partie de leur colonie ou pas. Et puis, souvent, elles commencent à se battre si c'est une autre espèce. Et puis, on peut noter différents comportements d'agressivité, comme essayer de piquer ou mordre, ou parfois même tuer l'adversaire. Donc, voilà, j'ai fait cette expérience. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'hypothèse que c'est forcément les plus agressifs qui dominent est entièrement fausse. Parfois, c'est le cas. Mais la fourmi la plus dominante, en fait, c'est la fourmi à grosse tête, Phaedol megacephala. Elle n'est pas du tout dominante dans les combats avec d'autres fourmis. Elle est plutôt fuyante. Et donc, en fait, il y a vraiment deux stratégies. Donc, soit on est effectivement dominant, on se bat, on découpe l'autre, on mord, on pique. Ou alors, l'autre stratégie, c'est d'éviter tous les conflits et d'être très rapide. Donc, il faut...
discret et véloce.
Très discret. Il faut être rapide. Et puis, par contre, on peut aussi dominer dans une communauté d'un insectes, si on est le plus rapide à découvrir les ressources.
Mais quand on lit, on voit qu'il y a quand même de drôles de choses qui se passent à l'Université de Lausanne. Il y a, outre les combats de fourmis que vous organisez vous-même, il y a aussi le fait que les moules Kaga ont créé des ennuis sérieux dans la tuyauterie de l'université. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors les moules sont répandues maintenant dans le lac Léman. C'est une espèce envahissante qui est très très difficile à éradiquer parce que elle arrive par les bateaux. Elle est accrochée à l'extérieur des bateaux et les larves de ces moules sont très résistantes à la dessiccation. Elles peuvent survivre vraiment beaucoup de choses. Et les propriétaires de bateaux, on a découvert, bougent beaucoup les bateaux entre différents lacs en Suisse, en France, la mer méditerranéenne. Et
donc, vous voulez dire que les bateaux migrent de lac en lac.
Voilà, et ils sont transportés par la route et puis remis dans un autre lac. En fait, et donc si la moule elle est présente dans un de ces fleuves ou lacs ou la mer, elles peuvent s'attacher à ces bateaux et ils sont transportés avec le bateau plusieurs jours à l'extérieur de l'eau, c'est pas du tout un problème. Et donc elle est maintenant, la moule quagga, elle est présente dans pas mal de lacs en Europe. Et le problème, c'est quand elle arrive à s'infiltrer dans les tuyauteries les tuyauteries d'un circuit de refroidissement de l'université dans lesquelles sont rentrées ces moules. Et donc ça peut complètement boucher ces tuyauteries et c'est un très très grand problème.
Mais vous avez trouvé une solution?
Non, pas vraiment.
Vous parlez aussi des punaises de lit dont on parle souvent. D'où viennent-elles? Et si je pars en voyage, quand je rentre, quels conseils me donneriez-vous pour éviter qu'elles ne s'implantent chez moi?
Alors, d'où vient-elle? Ça, c'est pas entièrement clair. On sait pas précisément. Mais c'est une espèce qui a été déjà éradiquée plus ou moins en Europe avec les conditions d'hygiène qui s'étaient améliorées vers le 19e siècle. Elle avait quasiment disparu. Et aujourd'hui, elle est en train de revenir et être transportée beaucoup par l'humain. Comment on peut s'en débarrasser? Eh bien, en fait, le mieux, c'est quand on rentre de voyage, de tout de suite laver tous les vêtements à 60 degrés minimum pour essayer de tuer ces punaises. Parce qu'une fois qu'elles sont dans le lit, elles peuvent aussi résister assez longtemps, pendant 2-3 semaines sans manger, et puis ressortent dès qu'il y a un humain qui dort dans le lit. Et
pique... 60 degrés.
Oui, 60 degrés minimum.
Minimum. Bon, il va falloir que je change mes habitudes. Vous avez parlé tout à l'heure de la colonisation et vous dites que les pays appartenant au même empire ont tendance à partager les mêmes plantes exotiques.
Oui.
Là, on parle de plantes. Est-ce que ça vaut aussi pour les animaux ?
Oui, alors nous, avec un doctorant de mon équipe, Émeric Bonamour, on a regardé les fourmis.
Et, décidément.
Bon, alors nous, on aime bien les fourmis. Donc on a regardé ça et puis on a des bonnes données aussi sur les fourmis. Et on a découvert que oui, ça vaut aussi pour les fourmis. Donc même, on a regardé dans le temps. Donc si on va 200 ans en arrière et on regarde la dispersion des fourmis dans le temps et dans l'espace, elles ont vraiment tendance à voyager au sein des mêmes empires.
Une fourmi, dites-vous, originaire d'un pays colonisé par la France, a plus de chances de diffuser dans d'autres pays appartenant à l'empire colonial français que dans un autre pays colonisé par une autre puissance ou pas colonisé du tout.
Voilà, oui, c'est ça.
Donc il y a une sorte de synergie. Vous parlez aussi du mur de Berlin. Alors là, j'ai été complètement étonné par ce que vous écrivez. Il y a le mur de Berlin qui est une frontière facile à franchir pour les oiseaux, en tout cas. Pour les humains, non, mais pour les oiseaux, c'est pas très difficile. Et pourtant... il a eu un effet de séparation sur les oiseaux.
Oui, donc il y a des collègues qui sont intéressés à cette séparation entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est pendant la guerre froide. Et on aurait tendance à penser que les oiseaux ne seraient pas vraiment influencés par cette frontière puisque peuvent voler. Et pourtant, en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux exotiques qui sont arrivés avec aussi le commerce des animaux de compagnie pendant cette période-là et qui ont été introduites plutôt dans l'Ouest et qui n'ont pas franchi cette barrière vers l'Est, qui n'ont pas diffusé vers l'Est.
Mais c'est quoi ? C'était idéologique de leur part ou...
Alors, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt que finalement, elles ne sont pas si mobiles que ce qu'on aurait pensé, ces oiseaux, qui n'ont pas diffusé si loin que ça. Donc après, on s'est intéressé aux insectes. Enfin, un collègue Alain Roch de l'INRA s'est intéressé aux insectes pour savoir si ça vaut aussi pour les animaux qui sont transportés vraiment accidentellement, qui peuvent être vraiment dans les valises, dans des marchandises. Et puis, il a également retrouvé cette séparation entre bloc Est et Ouest pour ces espèces invasives. Donc en fait, après, quand on recommence à faire beaucoup de commerce, le nombre d'espèces introduites augmente de manière assez drastique.
Cléo Berthel-Meyer, parfois, dites-vous, l'origine qu'on attribue à une espèce exotique peut être fausse. Vous citez le cas du cafard allemand. Alors c'est quoi ce cafard allemand et pourquoi on dit qu'il est allemand ?
Oui, alors ça c'est une espèce qui provoque pas mal de dégoût chez les gens parce qu'elle est associée un petit peu aux immeubles, puis parfois un peu la saleté, ce qui est assez vrai en fait. Il a une cuticule, il peut transporter toutes sortes de saletés et de
germes. C'est un cafard quoi.
C'est un cafard, voilà. Il y a des cafards qui ne font pas ça. Il y a beaucoup de cafards, il y a plusieurs milliers d'espèces de cafards. Ils ne font pas tous ça. Il y a beaucoup qui vivent de manière assez inoffensive dans les forêts et puis qui ne transportent pas spécialement des germes.
Oui, mais ils s'appellent quand même cafards et ils transportent avec ce nom une sorte de halo symbolique plutôt négatif.
Oui, voilà, voilà. Et donc, cette espèce qui était répandue en Europe depuis longtemps, ben, on a pensé que c'est une espèce, bien sûr, de chez nous. Et puis, on a pensé même que son foyer d'origine se trouverait en Allemagne. Mais il y a des études scientifiques récentes qui ont montré que c'est pas du tout le cas, en fait, que c'est une espèce qui vient d'Asie, probablement Asie du Sud-Est, et qui a voyagé il y a très longtemps, probablement avec l'expansion des califats islamiques et des routes de commerce de cette époque, donc il y a plus de 1000 ans, en fait, et qui se serait déjà répandu en Europe.
Donc, quand vous découvrez que l'appellation d'une espèce est fausse, qu'on s'est trompé sur l'origine, est-ce que vous la corrigez ou est-ce qu'on continue à appeler ces cafards des cafards allemands ?
Oui, il faudrait la corriger. Alors souvent,
parce que c'est quand même lourd à porter.
Oui, ouais, il faudrait la. Moi, j'aimerais plus cafard voyageur ou quelque chose comme ça qui indique cette dispersion par l'humain.
Vous parlez aussi de ce que vous appelez l'effet tête de pont. Moi, je crois que c'était un terme militaire, ça.
Oui, en effet, oui. Donc, on a un peu des mots qui ont été attribués à un moment à un phénomène biologique et qui sortent d'un vocabulaire parfois de guerre ou de société. Et ça, c'est le cas. L'effet tête de pont, c'est l'idée quand une armée arrive à un endroit, qu'elle installe un camp sur un territoire adversaire et qu'à partir de ce camp, ils envahissent l'autre pays. Donc chez les espèces invasives, maintenant on a utilisé cette idée pour décrire le phénomène où une espèce arrive à un endroit, établit une population là et à partir de cet endroit commence à proliférer et puis envahir beaucoup d'autres endroits.
C'est une sorte de première étape.
C'est une première étape qui accélère de manière fulgurante son invasion.
Vous parlez aussi, Cléo Bertelsmeyer, de ce que vous appelez l'asymétrie dans les flux globaux, phénomène que Darwin avait déjà noté. En quoi ça consiste ?
Alors, Darwin, parmi les nombreuses choses qu'il a observées pendant son voyage, c'est qu'on trouvait beaucoup de plantes de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud, mais beaucoup moins l'opposé.
Pas symétrique.
C'est pas symétrique. Et il a fait l'hypothèse que c'est peut-être parce qu'il serait plus dominant, il serait meilleur pour s'établir ailleurs, que c'est la sélection naturelle qui a façonné de cette manière à les prédestiner à envahir ailleurs. Donc ça, c'était une question que les scientifiques s'ont posée pendant longtemps. Et aujourd'hui, maintenant, on a des données, on a des grandes bases de données de distribution d'espèces. Donc, on a pu tester cette idée. Et puis, ça a avéré que pour les plantes, en effet, c'est vrai qu'il y a plus de plantes du nord qui ont envahi le sud. Mais c'est pas le cas pour d'autres groupes d'espèces. Donc, notamment, pour les oiseaux, c'est très différent. C'est plutôt, des espèces qui viennent de l'Empire britannique qui sont très répandues. Pour les insectes, c'est encore différent. Donc, en fait, pour chaque groupe, c'est assez différent. Il n'y a pas que ça vient systématiquement du nord vers le sud. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que ces asymétries sont liées à la manière dont ces espèces ont été transportées par l'humain.
Donc c'est corrélé à l'activité humaine, enfin au déplacement humain.
C'est exactement
au
ça.
Au commerce.
Oui, donc c'est le fruit de la mondialisation et puis des raisons pour lesquelles ces espèces ont été transportées. Les oiseaux, c'était vraiment à l'époque les Britanniques qui ont créé même des sociétés dites d'acclimatation où ils ont volontairement transporté ces oiseaux dans leur colonie et les ont diffusés pour les amphibiens et les reptiles, le commerce se fait beaucoup entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord parce qu'il y a vraiment un commerce d'animaux de compagnie qui est très important sur ces deux continents. Et pour les plantes, il y a encore d'autres raisons. Donc en fait, chaque groupe taxonomique a un peu son histoire propre liée à l'histoire de l'humanité aussi qui a fait qu'on observe ces asymétries.
Mais est-ce que toutes les espèces ont les mêmes dispositions à devenir invasives ? Est-ce que c'est une affaire de personnalité ? C'est un mot que vous utilisez pour parler des animaux d'une même espèce. Vous dites qu'ils ont différentes personnalités. Est-ce que ce n'est pas une projection que vous faites à partir de ce qu'on connaît chez les humains ?
Oui, alors le mot personnalité, en fait...
Pour les chats, les chiens, je veux bien, mais oui, pour les fourmis ?
Oui, mais en fait, alors les biologistes l'utilisent de manière assez précise, le terme personnalité. C'est quand il y a des différences de comportement entre les individus d'une même espèce. Donc, par exemple, les fourmis de la même... Jardin noir, elles peuvent avoir des personnalités différentes si on observe un comportement qui est cohérent dans le temps. Donc, par exemple, un individu qui est toujours plus explorateur que les autres et que ça, c'est quelque chose qu'on peut retester dans le temps et que ce n'est pas spécifique non plus à une situation. Donc, un animal qui est agressif envers un autre, bah, peut-être c'est juste qu'il y a un problème de domination avec cet autre individu.
Il est agressif.
Il est agressif. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui se répète dans différentes situations.
C'est pas un coup de tête.
Voilà. Oui, et là on parle
donc
de
les animaux d'une même espèce ont une personnalité. Et donc je repose ma question, est-ce qu'il y a certains types de personnalités qui rendent les invasions plus faciles.
Oui, donc on a découvert ça. Par exemple, les animaux qui sont plus explorateurs, plus courageux, plus qui bougent plus, qui ont plus une tendance à explorer, à aller loin, à disperser, ce sont souvent les individus au sein d'une espèce qui vont être ceux qui fondent une nouvelle population.
Vous parlez aussi dans le livre d'un phénomène que je ne connaissais pas, enfin en tout cas pas le nom, c'est l'e-socialité. E écrit EU. E-socialité, qu'est-ce que c'est?
E-socialité, en fait, c'est le cas des insectes sociaux, donc les fourmis, les guêpes, les abeilles, les termites. Et dans ce cas-là, on a une division du travail reproductif. Donc en fait, on a un roi, une reine qui s'accouplent. Et puis des ouvriers ou des ouvrières qui ne se reproduisent pas eux-mêmes, qui aident en fait leur mère, leur père à élever des descendants.
Donc il y a un partage des tâches.
Il y a un partage des tâches extrême en fait.
2% qui travaillent et les autres qui se reproduisent.
Les autres, alors la plupart ils travaillent en fait, et puis on a une reine chez les fourmis, c'est souvent une reine qui pond les œufs, qui est la mère de tous les membres de cette colonie.
Si je dis que quand les espèces sont invasives, les passives sont évincées, vous comprenez ce que je dis ou pas? Je pose justement la question parce que l'espèce invasive a pour anagramme passive évincée. Donc je voulais savoir si cet anagramme avait un petit sens pour vous, si c'est juste un mauvais hasard.
Je sais pas, je crois que c'est un hasard.
Alors on va dire ça. Vous parlez de la sexualité et vous dites en gros, la sexualité c'est une galère. Je vous cite, page 108, c'est quand même très ennuyeux de devoir trouver un partenaire adéquat, s'accoupler avec lui, s'exposer aux maladies sexuellement transmissibles, prendre le risque qu'il apporte des mauvais gènes ou que le nouveau partenaire commette un infanticide. Il y a beaucoup d'infanticides chez les animaux, j'ai compris ça. Bref, il y a pas mal de tracasseries qui sont liées à la sexualité. Ce serait tellement plus simple si une femelle pouvait se reproduire toute seule sans l'aide d'un mâle. En fait, c'est même une des grandes énigmes de la biologie, de l'évolution. Pourquoi la reproduction sexuée est-elle apparue? Et surtout, pour quelles raisons s'est-elle maintenue? Bref, à quoi servent les mâles?
Oui, tout à fait.
Quelle est la réponse? Quelle est la réponse à cette question?
Oui, donc
je dis ça pour mes 3 camarades qui sont dans la petite cabine technique et qui attendent votre réponse avec impatience.
Bien. Donc c'est effectivement une grande énigme et les biologistes cherchent encore à expliquer entièrement la chose parce que effectivement c'est plutôt une complication. Maintenant il y a des avantages, notamment mélanger les gènes, ça crée plus de variété. Donc on peut avoir des descendants, une grande variabilité des descendants. C'est un petit peu l'analogie comme si on a 2 voitures, on a une qui a un problème la pompe à injection, une autre un problème des freins. Si on mélange les pièces, donc soit on obtient une voiture superbe où il y a tout qui fonctionne, mais aussi on peut avoir une voiture où il y a plus rien qui fonctionne. Et un peu c'est un peu l'idée de mélanger ces gènes. Ben en fait on a une opportunité.
Vous dire que le mâle c'est une sorte de voiture avec des pièces défaillantes.
Le mâle et la femelle en fait, mais on met ensemble des choses qui soit peuvent permettre de créer du nouveau. Et ça peut être intéressant dans des situations de changement. Il y a des nouveaux parasites qui apparaissent, changement climatique, quoi. Donc les espèces, ça peut les aider à s'adapter à ces conditions changeantes, notamment des maladies aussi qui apparaissent. Par contre, en fait, il faut accepter que parmi les descendants qu'on va produire, on aura aussi un certain nombre de boulets qui ont les 2 pièces défaillantes, en quelque sorte.
Bon, mais le bilan est quand même pas terrible, hein. Qu'est-ce que vous appelez une niche vacante et quel rôle de telle niche joue-t-elle dans la façon dont une espèce peut devenir invasive?
Alors la niche vacante, c'est un petit peu l'idée dans les écosystèmes, il y a différentes fonctions, les espèces qui sont liées par des réseaux d'interaction. Et une niche vacante, c'est qu'il y a parfois certains rôles qui ne sont pas remplis. Donc il y a personne par exemple qui mange le bois en décomposition. Et ça veut dire que si on introduit maintenant une nouvelle espèce de scarabée qui mange le bois en décomposition, il a un avantage parce qu'il est le seul à le faire. Donc là, il n'a aucune compétition sur place pour, dans un premier temps, limiter son installation.
Donc il n'amine pas la biodiversité, lui.
Voilà, oui.
Et l'apprentissage opérant, parce que vous avez expliqué, et je l'ai répété dans mon introduction, qu'il y a certaines espèces, quand on les déplace, elles déjantent, c'est le terme que vous employez, c'est-à-dire qu'elles deviennent beaucoup plus proliférantes que dans leur lieu d'origine. Est-ce que c'est lié au fait qu'elles s'adaptent plus vite ? Vous parlez d'apprentissage opérant, qu'est-ce que c'est ?
Donc en fait, ça c'est une des hypothèses, que peut-être les facultés cognitives seraient en lien avec l'invasion, donc notamment les cerveaux des oiseaux, des reptiles sont plus grands de ceux qui ont réussi à envahir. Et il y a aussi des études qui essaient de comprendre quel type d'apprentissage, en fait, quel type de facultés cognitives seraient particulièrement avantageuses, et notamment l'apprentissage opérant. C'est en fait un apprentissage où l'animal découvre qu'une action mène à un résultat souhaité. Donc, par exemple, un oiseau qui veut ouvrir une boîte dans laquelle il y a la nourriture, il peut essayer plein de choses, il peut essayer de piquer avec son bec, il peut tirer sur la boîte, il peut faire plein d'actions. Et d'un coup, ça marche, la boîte s'ouvre, il peut accéder à la nourriture. Et si ensuite il apprend ce geste qu'il a effectué, que c'est ça qui lui a permis d'ouvrir la boîte, il peut le reproduire plus vite dans le futur.
C'est-à-dire qu'il découvre une sorte de principe de causalité, si je fais ceci, alors il se passe cela.
Exactement. Et c'est quelque chose qu'on observe en fait en ville. Par exemple, les oiseaux, on a pas mal d'oiseaux qui sont introduites, qui apprennent à ouvrir les poubelles, choses comme ça. Donc c'est assez intéressant, je dirais, quand on est dans un nouvel environnement, d'être rapide à faire le lien entre une action et la conséquence.
Vous êtes manifestement passionné, Cléo Bertelsmeyer, par ces espèces invasives. Est-ce qu'il y a des phénomènes que vous avez observés qui, pour vous, demeurent mystérieux ? Vous n'avez pas d'explication, il se passe des choses qui sont pour vous complètement incompréhensibles.
Ah, c'est une très bonne question. Moi, je trouve que les espèces invasives sont fascinantes, non seulement par les problèmes qu'elles posent, mais surtout comprendre qui a les capacités à devenir invasives. Pourquoi il y en a une espèce qui réussit alors que l'autre échoue. Et là, je dirais qu'on a encore beaucoup de découvertes à faire. Donc, on parle de caractéristiques comme l'exploration, comme l'intelligence, l'opportunisme. Mais en fait, souvent, ce sont des choses qui sont étudiées sur une espèce. Donc, comprendre les facultés cognitives des oiseaux, on sait beaucoup de choses sur une espèce, le martin triste, qu'on connaît très bien, qui est très intelligente.
Le martin triste, cet oiseau, là, à quoi il ressemble ?
Alors, il est un peu brun, noir, avec une tache jaune derrière.
Et pourquoi on l'appelle triste ?
Peut-être quelqu'un a pensé qu'il a l'air un peu tristouné, mais je ne saurais pas dire.
Il n'est pas plus triste que le cafard allemand n'est allemand ?
Non, je ne dirais pas.
Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette espèce et quelles sont les questions qu'elle continue à poser ?
Mais je pense qu'en fait, celle-là, elle est assez bien étudiée, justement. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est la généralité de ces phénomènes. Est-ce que c'est une espèce qui est super intelligente et qui a réussi à envahir? Ou est-ce que l'intelligence, de manière générale, ou l'apprentissage, quel type d'apprentissage, en général, sont des caractéristiques nécessaires à l'invasion, qui favorisent très fortement l'invasion? Mais là, finalement, on a relativement peu de données expérimentales de comportement de ces animaux invasifs.
D'autant plus qu'il y a des paradoxes. Vous citez par exemple le paradoxe de la naturalisation de Darwin. Alors c'est lui qui l'a noté.
Oui.
En quoi il consiste et est-ce qu'on l'a résolu ce paradoxe ?
Il n'est pas résolu. Donc le paradoxe de Darwin, c'est qu'il s'est demandé si les espèces ont plus de facilité à envahir un endroit dans lequel il y aurait déjà des proches parents. Des espèces très apparentées. Et donc, d'abord, il a pensé que, sûrement pas, ce serait mieux qu'elles soient différentes. Parce que si on est différent, c'est un peu l'idée de la niche vacante, on peut peut-être trouver un rôle que personne n'occupe dans cet écosystème. On est différent, on n'a pas de concurrence. Et après, il a réfléchi à la question et puis il a fait l'hypothèse inverse aussi. Il a dit, mais peut-être qu'au contraire, c'est bien d'être très apparenté priorité aux espèces qui sont déjà présentes, parce que ça veut dire, si on est très apparenté, peut-être on partage beaucoup de traits, la tolérance thermique, une certaine forme d'intelligence, des traits qui sont importants à la survie à cet endroit. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle le paradoxe Darwin, c'est la question, est-ce que c'est mieux d'envahir là où il y a déjà des espèces proches ou pas.
Donc vous dites que ce paradoxe n'a pas été résolu par vous autres, les biologistes. Qu'est-ce qui manquerait pour le résoudre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tenter de trouver la bonne solution?
Alors,
est-ce que vous pouvez expérimenter, par exemple?
Oui, expérimentalement, ça c'est l'idéal. Souvent, c'est pas très facile d'introduire une espèce. C'est pas une bonne idée. Donc, souvent, on doit travailler un peu avec des corrélations. Donc, on observe là où une espèce a été invasive, et puis on essaie de prendre note des espèces qui sont déjà présentes. Donc en fait, pour le moment, on a des études qui montrent les deux. Parfois c'est une des deux hypothèses, parfois c'est l'autre qui a du soutien. En fait, on aimerait bien avoir des données pour vraiment tester cette question. On aimerait bien avoir des données très très précises de la distribution des espèces dans l'espace pour vraiment pouvoir tester de manière assez générale au niveau mondial si c'est vrai que les espèces envahissent plus facilement là où il y a les proches parents.
J'ai découvert tous les phénomènes dont vous parlez en lisant votre ouvrage. J'en avais jamais entendu parler avant. Est-ce que vous estimez que ce problème, qui a l'air assez grave quand même, d'après ce que vous dites, comment se fait-il qu'il ne se soit pas davantage mis sur le devant de la scène?
Je pense que un des problèmes, c'est les gens qui s'intéressent à la conservation de la biodiversité. En fait, on a plus envie de réfléchir à des actions entre guillemets positives. Donc, par exemple, lutter contre la pollution, lutter contre le changement climatique, ou préserver une espèce qui est en danger, ça nécessite pas une action comme tuer, en fait. Et pour éradiquer, malheureusement, on doit éliminer les individus. Souvent, c'est pas quelque chose qu'on a spontanément envie de faire, je pense.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour changer les choses?
Moi, je pense que le plus prometteur, c'est la sensibilisation des gens. Donc déjà, d'être au courant de ce problème. Moi, je l'étais pas à mes 18 ans, comme je raconte en introduction du livre. Et déjà, qu'on soit conscient du problème, qu'on évite d'introduire les espèces. Ça, c'est le plus efficace, c'est d'agir en amont, en fait. Donc éviter de disperser les espèces, ou aussi noter quand il y a des petites populations d'une espèce qui est peut-être bizarre, qu'on n'a jamais vue, essayer de la signaler. Au musée d'histoire naturelle à Paris, par exemple, il y a un programme d'observation des insectes exotiques, notamment le frelon. Signaler quand on a observé quelque chose de bizarre.
Mais signaler auprès de qui?
Signaler auprès de musées ou responsables régionales, départementales, qu'on a observé une espèce probablement exotique. C'est très important parce que quand on a des petites populations, souvent c'est possible de les éliminer. Éradiquer le moustigre aujourd'hui, ce n'est plus possible. Elle est repartie sur tout l'hexagone. On ne pourra plus se débarrasser de cette espèce.
Est-ce qu'ils sont responsables, ces animaux exotiques, de ce qu'on appelle les zoonoses?
Oui.
La propagation de virus par le fait que l'habitat des animaux se réduit.
Tout à fait. Alors, les zoonoses sont des maladies qui sont transmises des animaux à l'humain. Et effectivement, avec le transport surtout des mammifères, des oiseaux, on a beaucoup de maladies aussi qui voyagent. Et en fait, dans des pays où on a beaucoup d'espèces introduites de mammifères ou d'oiseaux, on a noté qu'il y a aussi beaucoup plus de zoonoses qui ont tendance à apparaître dans les populations humaines. Donc si on regarde un exemple, l'escargot géant, c'est une espèce d'escargot qui peut faire 20 cm.
20 cm de quoi? De longueur?
De longueur, oui. Donc c'est assez gros. Et c'est un animal qui est vendu comme animal de compagnie et qu'on peut retrouver sur des réseaux sociaux. On a regardé sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui en ont et qui... qui croient que la bave de l'escargot est bon pour la peau. Et donc ils postent des photos.
Mais où est-ce qu'ils ont lu ça?
C'est une légende. En fait, il y a aucune, donnée qui montre ça, mais c'est une croyance. Et puis, du coup, il poste des photos avec l'escargot sur le visage, sur la bouche. Et c'est justement ces contacts-là qui peuvent transmettre des parasites. Et on sait qu'il est hôte un verre parasitaire du poumon. Donc, en fait, il y a un parasite qui peut infecter le cerveau. Donc, c'est potentiellement pas du tout une bonne idée, en fait, de le mettre sur la peau, en fait. Et en plus, c'est une espèce parmi les 100 pires espèces invasives du monde.
C'est quoi le classement? Si vous deviez donner les 4 ou 5 pires parmi celles qui sont citées dans votre livre, moi, à vous lire, j'aurais mis la perruche à collier.
Non. Oui, je dirais le...
C'est quoi la perruche à collier? Est-ce que vous pouvez le rappeler pour qu'on comprenne les effets négatifs qu'elle a?
Oui, la perruche à collier, c'est un oiseau vert qu'on voit en ville à Paris.
Charmant.
Qui est assez bruyant, qui est assez agressif envers d'autres oiseaux. Voilà.
Mm-hmm. Et alors, pourquoi elle est gênante?
Elle est gênante pour d'autres espèces d'oiseaux qui sont gênées par ça, puis l'humain, en fait, surtout.
Alors, ça, donc elle est dans les 10 premières espèces en termes de dégâts qu'elle provoque?
Non, elle fait pas partie des pires pour le moment.
La tortue de Floride?
La tortue de Floride, elle présente un problème pour d'autres espèces de tortues qui sont natives, oui.
Alors, vous mettriez qui en plus de...
C'est difficile d'établir un classement parce que les impacts peuvent être très variables. Donc, si on dit en termes de pollinisateurs, c'est le frelon asiatique, c'est un très grand prédateur. Mais si on s'intéresse au lac, c'est la moule quagga. Si on s'intéresse plutôt à l'humain, les impacts de santé, je dirais le moustique tigre ou bien aussi la méduse nomade dans la Méditerranée qui commence à poser des gros problèmes et qui se disperse loin. Donc ça dépend, en fait, c'est très difficile de les classer dans un ordre. On peut dire lesquels ont des impacts notables sur la biodiversité ou sur la santé.
Vous n'avez pas cité le crapaud buffle.
Oui, moi je pense que pour le moment il fait pas
partie. Enfin, la photo que vous mettez de lui, même s'il fait pas de dégâts, il a l'air horrible.
Il est plutôt moche, ouais. Mm-hmm.
Alors quels sont les moyens d'action qu'on a quand on prend conscience du problème? Est-ce que les moyens d'action qu'on peut se donner sont d'ordre, disons, information qu'on distribue auprès du public, comme vous le faites par ce livre? Est-ce que c'est plus exigeant, il faut des actions plus concertées entre les États, par exemple.
Oui, alors ça, les deux, en fait, je dirais. Ouais, donc c'est important à différentes échelles. Donc à l'échelle individuelle, l'information, pour moi, c'est crucial que les gens arrêtent d'importer des espèces exotiques, les relâcher dans la nature, les plantes, la même chose. Donc ça c'est très très important. Informer et être vigilant à des étapes d'invasion assez précoces. C'est comme avec un cancer. Donc si on le détecte tôt, on peut peut-être encore le guérir. Si c'est en stade avancé, on peut plus. C'est la même chose pour les espèces invasives. Au niveau international aussi, on a des problèmes de concertation entre les États parce qu'il n'y a aucune loi qui est contraignante, qui oblige les États à coopérer.
Merci Cléo Bertelmeyer d'être venue à la Conversation Scientifique. Je recommande la lecture de votre livre passionnant « Comment les animaux exotiques envahissent le monde » sous-titre « Intelligence et opportunisme » qui vient de paraître aux éditions Favre. C'était la Conversation Scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean-Guy Linmège et à la réalisation Luc Jean Reynaud.